vous lisez des documents, hein, on va dire, vous surfez sur Internet, que c'est bientôt la fin de journée, vous êtes fatigué, vous essayez de faire de la veille technologique, hein, sur Internet, comme ça, vous grattez des informations, mais réellement, c'est parce que vous avez envie de rentrer chez vous. Et là, il y a le patron qui passe dans votre bureau. Alors que le patron, normalement, il n'est pas là. Il est sur Paris. Là, on est à Clermont-Ferrand. Et il vous dit, suis-moi, tu vas travailler avec moi. Et là, vous retournez, vous regardez, vous dites, mais non, mais c'est pas moi qui parle. Il s'est trompé de personne. Et non, non, c'est bien vous qui parle. Il vous regarde, il dit, suis-moi, suivez-moi. Comment allez-vous relever le défi? C'est ce qu'on va voir à travers Pierre. Comment il a relevé le défi? Pierre, une personne ordinaire avec une mission extraordinaire. Donc aujourd'hui et dans 2 semaines, on va s'intéresser à Pierre. Pierre avant la résurrection de Jésus et Pierre après la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment il est? Qu'est-ce que ça a changé? Et aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à la mission que Jésus lui a confiée et au caractère de Pierre, de la personne de Pierre. La première mission que Jésus lui a confiée, c'est en Matthieu chapitre 4. En fait, je vais prendre celle qui est relatée en Matthieu chapitre 4. À partir du verset 17, « Dès lors, Jésus commença à proclamer, « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit 2 frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, à réparer leurs filets. Il les appela, aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et le suivirent. Ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Quand on lit ce texte, au début de l'évangile, on ne comprend pas pourquoi Jésus appelle Pierre et les autres. Pourquoi eux? On ne sait pas du tout qui est Pierre. Ça se trouve, il était hostile à Dieu. Ça se trouve, il n'était pas bien. Ça se trouve, il n'avait pas du tout envie de s'ouvrir Dieu. Quand même, dans l'évangile selon Luc, pour un peu balancer, contrebalancer, on voit que Jésus avait déjà fait une partie de pêche avec eux au chapitre 5. Donc, il les connaissait un tout petit peu. Mais Matthieu, l'évangéliste, lui ne prend pas soin de dire qui est Pierre. Juste un type qui est là, que Jésus appelle. Et Pierre le suit. Qu'est-ce que Pierre a bien pu comprendre quand Jésus l'a appelé? Peut-être qu'il s'est dit qu'il allait chasseur de tête, pour une grosse entreprise aussi, qu'il allait recruter des candidats pour suivre Jésus. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, on suit un maître, non pas pour travailler avec lui, mais pour écouter ses enseignements. Là, Jésus lui propose de le suivre et de faire quelque chose avec lui. C'est pas juste « suis-moi, écoute mes paroles, bois mes paroles, parce que moi je suis le sage, je dis ce qui est bien ». Non, c'est « suis-moi, écoute-moi, et je t'envoie avec moi, travailler avec moi ». Et pour Pierre, à mon avis, ça a dû changer quelque chose. C'était pas très courant à l'époque de faire ça avec un disciple. Qu'est-ce que Jésus faisait? C'est pour ça qu'on a lu le début, enfin on a lu, vous voyez, au début et à la fin, on voit ce que Jésus faisait. Jésus enseignait dans les synagogues, il proclamait le règne de Dieu et il guérissait le peuple de maladies et d'infirmités. Voilà ce que Jésus faisait. Et Pierre, Jésus appelle Pierre à faire de même. Pierre réagit en laissant tout tomber pour suivre Jésus, son nouveau maître. Si on parcourt un peu l'évangile ou les évangiles et le livre des Actes des Apôtres, il semble apparaître que Pierre est un peu le représentant des disciples. C'est un peu le chef d'équipe ou le représentant syndical des disciples. Jésus va chez Pierre. Il va chez Pierre, dans sa maison, il va guérir sa belle-mère. Il n'y a pas de lien avec le reniement de Pierre. C'est pas parce que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre que Pierre a voulu renier Jésus. Je tiens à préciser, on ne sait jamais. Pierre accueille Jésus chez lui. Le maître va chez lui. Pierre est souvent avec Jacques et Jean, on voit souvent ce trio dans les évangiles. C'est souvent Pierre qui demande des explications dans les paraboles. C'est Pierre qui demande à Jésus, lors de la transfiguration, qu'est-ce qu'il doit faire quand il y a Moïse et Élie aussi qui apparaissent. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je te construis des tentes? Bon, là, Pierre, il est en train de flipper quand il demande ça, réellement. Il ne sait pas trop quoi dire. Donc, il dit quelque chose qui lui passe par la tête. Mais Pierre, c'est Pierre qui prend la parole. Lorsqu'ils sont dans le jardin à Gethsémané, ils sont Pierre, Jacques et Jean. Seul Pierre est nommé, sinon on appelle les fils de Zébédée. Et quand Jésus fait reproche au trio, il fait reproche à Pierre et pas aux autres. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Pierre qui prend la parole dans la chambre haute, dans Actes 1, la chambre où il y a 120 personnes. Hein, c'est pas votre chambre à coucher. Hein. C'est Pierre qui prend la parole quand on a la liste des disciples, dans Matthieu 10 et ailleurs. C'est Pierre, on commence par Pierre, la liste des disciples. Et enfin, quand Jésus demande aux disciples qui il est, c'est Pierre qui répond. Ça nous amène au deuxième appel de Jésus. Alors, la question, donc on a un premier appel de Jésus en Matthieu 4, on a un deuxième appel de Jésus en Matthieu 16, et la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que c'est le même appel? Est-ce qu'il rajoute quelque chose? Est-ce que c'est un avenant au contrat? Est-ce que c'est le même, mais il le dit différemment? Est-ce qu'on va un peu s'intéresser? On va regarder ça. Donc, on lit, c'est dans Matthieu 16, des versets 13 à 28. On retrouve un peu la même chose. Hein. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Et il répond, Simon, Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Là, une petite précision. Jésus demande au dire des gens qui est le Fils de l'homme. Quand Jésus pose cette question, il fait référence à un texte dans l'Ancien Testament, en référence à lui-même. Parce que là, au verset 13, il dira qui est le Fils de l'homme. Et on voit au verset 15, il dit qui suis-je? Donc, Jésus lui-même s'approprie ce terme de fils de l'homme dans Daniel 7, référence au Messie qui devait venir. Qu'est-ce qui se passe? Jésus va donner une nouvelle mission à Pierre, juste après qu'il ait reconnu que Jésus était le Messie, pas avant. C'est seulement à ce moment-là que Jésus lui donne sa mission. Il lui dit « Heureux, heureux car Dieu t'a touché par son esprit. » Grâce à l'affirmation de Pierre, l'Église de Jésus va pouvoir commencer. Dans l'Église, le royaume de Dieu, la mort ne prévaudra plus, pour reprendre le terme. La mort n'aura plus d'emprise sur l'Église. Je fais un petit parallélisme, comme pour les psaumes. J'ai dit la même chose dans la Bible. La mort ne prévaudra plus dans l'Église. Pierre, fils de Jonas, en reconnaissant et en affirmant qui est Jésus, est le socle de l'Église. Oui, Pierre, fils de Jonas, ce pêcheur de poissons. L'Église va naître à partir de cette proclamation de Pierre. L'Église est l'ensemble des personnes qui reconnaissent que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Pierre en est le précurseur. Et je veux juste faire une parenthèse sur cette idée. Ça n'empêche que le fondement de l'Église reste Jésus-Christ. Pierre n'est pas la pierre principale. Pierre n'est pas le socle de l'Église. C'est bien Jésus qui l'est. Pierre, plus tard, a écrit des épîtres. Et dans une des épîtres, il écrit au chapitre 2, Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Pierre dira plus tard que c'est Jésus qui est la pierre vivante et que les chrétiens, à la suite, sont des pierres pour former l'Église de Dieu. Les chrétiens sont appelés, à la suite de Pierre, à former cette Église. Dans cette deuxième partie de mission, vous avez vu, elle est séparée en deux. On voit que Pierre est le début, la pierre de l'Église, et en même temps, il est question des clés, une histoire de un jeu de clés. Donc, à l'Église, on a plusieurs jeux de clés, mais là, il est question des clés aussi. Jésus va donner les clés du royaume des cieux à Pierre, il lui dit, et ce qu'il lira sur la terre sera lié dans les cieux, et ce qu'il délira sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre aura le pouvoir de lier et délier sur terre avec des répercussions dans les cieux. Pierre, ce qu'il fait sur terre, aura des répercussions dans les cieux. Et ce n'est pas ce qu'il fera dans les cieux qui aura des répercussions sur terre ou ailleurs. C'est ce qu'il fait actuellement, quand Jésus lui parle, à la suite, qui aura des répercussions dans les cieux, pour le royaume des cieux. Lorsque Pierre a ouvert la porte de la foi aux non-juifs, aux juifs lors de la Pentecôte et aux païens plus tard, il fait usage des clés du royaume des cieux, les clés du royaume que le maître avait promis de lui donner. La clé donnée à Pierre est l'autorité de proclamer la parole de Dieu sur la base de la révélation au sujet du Christ qu'il a reçu, dans le but d'admettre les gens dans le royaume des cieux. Vous avez vu, c'est pas de moi. Pierre aura le pouvoir d'être un pêcheur d'hommes, de lier et de délier les personnes pour les faire entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume. Et la mission est la même qu'au chapitre 4. Mais elle se précise un peu plus, parce qu'au chapitre 4, c'est assez énigmatique quand même. Là, il précise la pensée, il précise sa pensée. Être pêcheur d'hommes, c'est faire entrer les personnes dans le royaume des cieux. Ce sont les clés de la connaissance de Dieu. Cette mission pour Pierre et les apôtres sera pleine et effective après la résurrection du Christ. C'est une sacrée mission que Jésus lui propose. À lui, Pierre. On se dit alors, mais qui est Pierre pour que Jésus lui propose cette telle mission? Est-ce qu'il en a les capacités? Comment il est? Comment il se comporte? Parce que surtout qu'après ce qu'on n'a pas lu, juste après le texte, dans Matthieu 16, Pierre va commencer à dire quelque chose contre Jésus. Et Jésus va lui dire, va dire rétro Satanas, arrière de moi Satan. Donc, Jésus avait quand même la connaissance aussi de Pierre. Donc, c'est ça qui est un peu difficile à comprendre. On va s'intéresser encore un peu plus à Pierre. On voit que Pierre, dans les Actes, est une personne sans instruction particulière. Donc, c'est pas un type qui a fait une grande école, une grande école de disciples. Il est assez impulsif. Il agit très, en fait, en tout cas dans les évangiles, c'est assez sans réfléchir, ou ça donne cette impression. Il va sortir une épée pour trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre. Il contredit Jésus assez fréquemment. Et quand il voit Jésus ressuscité, il va directement se jeter à l'eau. Il prend souvent des initiatives, mais bon, ça ne marche pas toujours. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, lors de la transfiguration, il va proposer à Jésus de leur construire une tente. Et il le fait juste parce qu'il a peur. Il est paniqué, on voit ça dans Marc. Il se contredit assez régulièrement. Il demande à marcher sur l'eau, et puis une fois qu'il est sur l'eau, il va couler. Il est premier à reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, puis après, 5 minutes après, il va dire à Jésus s'il doit faire, alors qu'il vient de dire qu'il est fils de Dieu. Il va promettre de donner sa vie à Jésus, puis il va le trahir. Il va ouvrir l'église aux païens, puis plus tard, il refusera de manger avec eux. Et puis, il est des fois un peu lâcheur. Il va renier Jésus dans le jardin. Et plus tard, il va le renier quand la personne, lors du tribunal, quand Jésus est jugé, il va dire plusieurs fois, non, je ne connais pas ce type. Mais il a quand même des aspects plus positifs. Là, c'était assez un tableau dénigrant, peut-être. On voit que c'est quelqu'un qui est assez entier et assez loyal. Il est à fond dans ce qu'il dit. Il est prêt à suivre Jésus. En fait, quand il dit quand même qu'il va suivre Jésus, il est convaincu. Hein. Ce n'est pas que c'est une balance, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui est poli. Bref, vous m'avez compris ?
Ouais.
Il est entier. Tout ce qu'il dit, il le pense vraiment, il essaye de l'accomplir. Il n'a pas froid aux yeux. Hein. Je veux dire, il est assez tête brûlée quand même. Il veut faire les choses, il ose faire les choses. Pierre a une grande gueule. C'est un peu le portrait qu'on pourrait dresser de Pierre. Pourtant, Jésus l'appelle à le suivre. Il fallait que j'en danse peut-être pour que ça marche. Pierre a une mission plus importante que d'aller annoncer ou guérir les malades. C'est de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. C'est de faire en sorte que les gens soient réconciliés avec Dieu. Et c'est justement la mission que Jésus avait, de faire en sorte que les gens soient réconciliés avec Dieu. On le lisait, hein, tout au départ. Changer radicalement, car le règne des cieux s'est approché par Jésus. C'est le but de Jésus, de faire en sorte que les gens soient réconciliés avec Dieu. Et alors, comment Jésus a utilisé Pierre ? On voit plus tard dans le livre des Actes que son caractère va l'aider à prendre des décisions pour l'Église. Parce qu'il ose faire, il ose y aller, même dans des situations assez compliquées. Pierre, dans les Actes, va prendre position devant les autorités. Il ne va pas hésiter à aller dans l'opposition. S'il pense que Jésus est la vérité, il pense que Jésus est la vérité, il va aller dans l'opposition face aux autres, face aux autorités. Quand le texte nous dit qu'il est rempli de l'esprit et d'assurance dans les Actes des apôtres, Dieu se sert de lui pour que l'évangile soit annoncé et affirmé. Quand il le fallait, Pierre, on voit qu'il est loyal dans les Actes. Il tient ferme dans ses positions. Il reste fidèle à Christ jusqu'au bout dans les Actes. Fidèle à sa mission. On le voit présent à chaque étape de l'avancement du royaume. On ne voit plus un Pierre qui a peur et même avec l'impression qu'il va changer d'avis. Dieu a travaillé à travers son cœur, pour le changer en bien, ou le réorienter pour faire avancer le royaume de Dieu. Pierre, je le rappelle, est une personne ordinaire avec une mission extraordinaire. Est-ce que nous avons conscience que de la mission que Dieu nous confie, de la mission importante qui était celle de Jésus? Prendre conscience de la mission que Dieu nous confie, ce n'est pas l'idée de nous accabler parce que nous sentons tellement faibles ou mauvais. Non, c'est juste pour qu'on puisse mesurer quelle chance nous avons de pouvoir être participants de cette mission. Les chrétiens diront une grâce, c'est une chance extraordinaire, j'aime bien traduire comme ça, que Dieu nous fait de nous rendre participants à son royaume. C'est nous qui devrons lui demander d'être participants à son royaume, hein, en fait. Ce n'est pas lui qui devrait nous demander. C'est nous, connaissant Dieu, on devrait dire « Ah non, mais moi, je veux venir avec toi. » On voit que Dieu a utilisé le caractère de Pierre à bon escient, renouvelé par son esprit. Dieu va se servir de son caractère et il va l'utiliser pour son œuvre. Dieu va se servir aussi de nos caractères, de qui nous sommes, avec des traits pas toujours top, que nous nous reprochons parfois ou que les autres peuvent nous reprocher. Mais Dieu gère avec ça. Dieu en fait son affaire. Et Dieu nous invite aussi à ne pas nous comparer et à ne pas nous désespérer. Nous sommes différents. Et Dieu va nous utiliser pour l'avancement de son royaume. Mais ce n'est pas une invitation pour rien faire non plus. Hein. Je ne dis pas qu'il faut se reposer comme ça. Oui, je suis comme ça, c'est Dieu qui a voulu, ça, tout ça. Non, c'est une invitation à progresser, à chercher à être renouvelé par l'Esprit de Dieu pour travailler et utiliser notre caractère pour des bonnes fins. Et ça implique aussi à bien nous connaître. Pierre, il pensait peut-être bien se connaître en disant « je te renierai jamais ». Il s'est trompé. Pierre, on a vu, hein, il a vécu c'était une personne ordinaire. Il a vécu un reniement, une chute assez profonde. Et Dieu l'a restauré, Dieu l'a pardonné. Et pas seulement pardonné, il l'a gardé à son service. Il ne l'a pas disqualifié. C'est un appel aussi pour nous à voir comment on peut, comment on réagit face à la chute des personnes. On les pardonne. Après, est-ce qu'on ne les disqualifie pas? Ou jusqu'où on les disqualifie en tout cas? C'est une question un peu difficile, mais en tout cas qu'il faut garder en tête, il me semble. On sait que Jésus ne s'est pas trompé dans son recrutement. On sait très bien que Jésus appelait Pierre en connaissance de cause. Et il savait qu'il pouvait faire quelque chose de bien avec lui. Dieu nous appelle à bien nous connaître, à réfléchir sur qui nous sommes. Et des fois, on est un peu rempli d'illusions. On pense soit qu'on est bien, soit qu'on est vraiment nul. Peu de personnes sont équilibrées, j'ai l'impression, mais en tout cas, on est soit très nul, soit on est un peu trop bien de ce que l'on est réellement, ou de ce qu'on dit. Dieu nous appelle à vraiment bien nous connaître, à savoir qui nous sommes, à ne pas convoiter les dons qu'il a donnés aux autres, et de plutôt garder les nôtres et les travailler, de ne pas négliger ce qu'il nous a donné. Du coup, il faut des fois nous faire grâce à nous-mêmes. Il faut se pardonner à soi-même. Nous sommes imparfait. Et moi, je travaille avec Mickaël et Jérémy. Ils savent mon caractère. Ils savent que des fois, je suis assez direct. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, peut-être. Que je suis assez direct. Et j'ai besoin que les choses soient bien ficelées, bien carrées, bien. D'autres diraient que je suis assez pénible pour ça. Mais en tout cas, je pense que ça m'aide vraiment à avoir quelque chose de plus efficace pour la mission. Ça n'empêche, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut travailler. Travailler sur ce que Dieu nous a donné. Travailler sur les dons que Dieu nous a donnés, sur notre caractère et comment on va les utiliser pour son service. Travailler les points qui ne rendent pas gloire à Dieu et les réorienter pour qu'ils puissent rendre gloire à Dieu. Si on est quelqu'un qui parle assez rapidement, ou du moins qui est assez, comme Pierre, grande bouche, et ben le faire pour le service de Dieu, pour que ça soit utile au service de Dieu. Et comme j'évoquais tout à l'heure, nous sommes ici en Église, on parle d'un point de vue individuel, mais aussi collectif, il faut faire grâce aux autres. Parmi les piliers de l'Église naissante, on en a un qui a renié le Christ, l'autre l'a persécuté, mais à aucun moment, Christ ne les a disqualifiés de leur service et de leur ministère. Ils se sont repentis, Christ les a pardonnés, et ils ont avancé. Quelle est mon attitude envers celui qui chute? Est-ce que je le disqualifie aussi de son service? Ou est-ce que j'ai une attitude de pardon, de grâce envers lui? Pierre, à ce moment-là, n'a toujours pas compris entièrement sa mission tant que le Christ n'est pas ressuscité. Pierre voit qu'il y a quelque chose, mais ne mesure pas tout l'impact que ça va avoir non plus. Il est confiant quand même dans ce que Jésus lui dit. Jésus a prié sa foi, que sa confiance soit renouvelée. Et on verra dans les actes et même à travers ses épîtres, que Pierre a vraiment changé radicalement. On peut même se poser la question, est-ce que c'est la même personne ? Il y a une transformation dans le caractère de Pierre. Au contact de Jésus et au contact aussi du service que Dieu lui donne. Je vous propose de prier. Notre bon Père Céleste, nous savons que tu es bon, tu es généreux envers nous, que tu nous as donné un caractère, des compétences, des dons. Tu souhaites que nous nous mettions à ton service pour l'avancement de ton royaume. Père Céleste nous a appelés à te suivre et à être des témoins là où nous sommes, de ton royaume. Nous sommes porteurs des clés du royaume des cieux. Nous avons le pouvoir ou la capacité de faire en sorte que les gens te connaissent et entrent dans ton royaume. Nous te prions de nous donner connaissance, ou en tout cas, que nous puissions bien comprendre cette responsabilité que nous avons et cette chance que nous avons de travailler avec toi. Seigneur, nous savons clairement que tu n'as pas besoin de nous, que tu es Dieu et tu es tout puissant et tu es tout capable. Et tu souhaites partager ce bonheur avec nous. Seigneur, aide-nous encore à prendre du temps pour mieux nous connaître, pour mieux connaître nos dons, pour mieux voir comment nous pourrions les mettre à ton profit, comment nous pourrions mieux servir nos frères et sœurs, nos amis. Seigneur, nous voulons être agréables, nous voulons être proches de toi, nous voulons attendre ton retour avec patience. Nous te prions de nous envoyer ton esprit, enfin de nous remplir de ton esprit pour avancer sur ces chemins. Amen.